Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique. Samedi 11 février, les AFC proposent de vivre la Saint-Valentin autrement. On en parle justement avec nos trois invités. Mes trois invités, ce sont les organisateurs de cet événement et tous les trois membres de ces AFC. Gilles Valadier, vous êtes président de la Fédération des AFC du Tarn-et-Garonne et référent régional. Bonjour à vous.
Bonjour.
Juste à côté de vous, votre femme Véronique Valadier, vous êtes secrétaire de cette fédération des AFC dans le Tarn-et-Garonne, mais aussi à l'échelle régionale. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et pour être totalement complet sur ce plateau, Fabienne Venard, vous êtes membre du... Oui, vous êtes membre du bureau des AFC au niveau du Tarn-et-Garonne. Merci à tous les trois déjà d'avoir accepté mon invitation et d'avoir fait le déplacement depuis Montauban. Je le disais, vous organisez samedi prochain une Saint-Valentin autrement dans la salle Josette Durand au sein de l'église de Sapiac. Parlez-nous déjà de la genèse de cet événement. Comment cette idée elle vous est venue de tourner cette fête commerciale en une fête de la famille, du couple tout simplement ?
Eh bien déjà, la première fois, nous avons assisté à Lourdes à des Saint-Valentin autrement et on a été emballés. C'était une grosse organisation, c'était par l'évêque de Lourdes. Il y avait beaucoup de couples, beaucoup d'intervenants et on a dit c'est chouette. On a gardé ça en tête pendant plusieurs années et on a décidé de le reproduire à notre petite échelle. Et les AFC qui croient fortement à la famille et au couple ont pensé qu'il serait intéressant de proposer une alternative à cette fête un peu trop commercial. D'ailleurs, souvent, on entend dire « Oh, mais moi, je fête pas la Saint-Valentin parce que c'est juste une fête commerciale. » Et en fait, on pense qu'il y a autre chose derrière cette Saint-Valentin et ça serait dommage de ne pas profiter de cette occasion pour se redire qu'on s'aimait.
Est-ce que finalement, la Saint-Valentin, c'est pas tous les jours ? Est-ce que la fête des couples, c'est pas tous les jours ?
Ça devrait.
Ça devrait.
Ça devrait, c'est ce qu'on va essayer... En faisant participer au couple par des petits jeux et surtout par du dialogue et par une compréhension de leurs réactions aux uns aux autres, qui sont des fois différentes, on va essayer de leur faire comprendre que ça peut être la fête tous les jours.
Pourquoi c'est important pour les couples de prendre du temps spécifiquement pour eux à l'occasion de cette Saint-Valentin, même si on l'a dit, c'est tous les jours qu'il faut prendre soin de son couple?
Ben, c'est important parce qu'on a vraiment l'impression que les couples ils vivent à 100 à l'heure, entre le travail, les enfants, ils ne prennent pas assez le temps de se poser. Et avec ce petit moment de pause, on voudrait aussi leur montrer qu'ils peuvent faire ça aussi en dehors de ce qu'on leur propose, ils peuvent faire des pauses dans leur vie de couple. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, comme un petit peu comme aux équipes Notre-Dame où on propose de faire un devoir de s'asseoir une fois par mois, de s'asseoir en vérité, de se parler sous le regard de Dieu si on est croyant ou pas, en prenant un vrai rendez-vous, parce que si on ne prend pas rendez-vous, on ne prend pas le temps de le faire.
Gilles Valadier, les couples, tout va trop vite aujourd'hui, où on ne prend plus le temps de se poser, de découvrir l'autre, de redécouvrir l'autre.
Ah oui, c'est le gros problème des couples aujourd'hui, c'est que le travail, la télévision, Internet, tout ça a pris
le téléphone.
Le téléphone, oui, mais c'est Internet aussi, mais oui. Le smartphone maintenant, voilà. Donc les gens passent trop de temps là-dessus et du coup, ils oublient peut-être de se regarder, de prendre le temps de se caresser, de s'aimer, voilà. Donc d'où l'importance de la Saint-Valentin autrement.
Le couple est en danger, est en péril, on peut le dire, parce que c'est vrai qu'avec l'apparition des réseaux sociaux, le développement de toutes ces technologies-là, on passe plus trop de temps avec l'autre.
Oui, je pense que tous les milieux sont touchés. C'est pas même les milieux catho sont touchés par cette vague
de séparation
et tous les couples sont touchés. Oui.
Véronique Valadier, je rappelle la date de cette Saint-Valentin autrement à l'église de Sapiac, c'est le 11 février. Qu'est-ce que vous allez y faire, y vivre ?
Alors le principe de cette soirée est simple. On va se retrouver dans une salle qu'on va décorer, qu'on va espérer conviviale et sympathique. ça sera autour d'un repas. Les, vraiment, les couples seront face à face, un peu isolés pour pouvoir bien prendre leur soirée pour eux. Donc, à chaque plat, une étape. Entrée, plat principal, dessert. Pour chaque plat, les couples répondront séparément à des questions, des jeux ou des tests. Et ensuite, ça sera ludique. Et ensuite, ils regarderont leurs réponses ensemble. Et le fait de regarder ces réponses ensemble amène forcément à un échange qui souvent surprend, amuse. D'ailleurs, avec Gilles, on l'a déjà expérimenté plusieurs fois, ce genre de petit dîner. Et on a beaucoup ri quand même.
Oui. C'est
on
amusant.
A beaucoup ri, c'est amusant, mais en même temps, ça apporte quand même quelque chose parce qu'on découvre. Par exemple, avec des questions sur... oui, ça tourne autour du couple, de la famille, forcément. Par exemple, ça va être des petits mots importants à entourer sur qu'est-ce que tu trouves le plus important dans tel ou tel cas. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas du tout la même chose, en fait. Mmh. Et c'est là qu'on découvre plein de choses. Et sans dévoiler toute la soirée, parce que ça serait plus une surprise, cette année, en entrée, des petites questions ludiques sur le thème « Mieux se connaître pour mieux s'aimer ». Le plat principal, ça sera « Exprimer de la gratitude ». Mmh. Et au dessert, « Comment aller plus haut ensemble ?» avec le décalote de la sérénité du pape Jean XXII. Ça paraît très, très calé comme ça, mais en fait, c'est très
simple.
C'est très simple et c'est très facile. Voilà. Je peux rajouter que c'est une soirée ouverte à tous. Il suffit d'être en couple, marié ou pas, pratiquant ou pas, jeune ou moins jeune. Catholique ou pas, parce que les sujets abordés sont universels. Ils parlent à toute personne et ces sujets ne parlent pas de religion.
Mmh. L'idée, c'est que chaque couple soit dans sa bulle.
Oui, exactement.
Il n'y a pas d'échange entre couples, avec les organisateurs, c'est-à-dire vous, non ?
Non, bon, on essaiera de faire un petit temps, l'apéritif par exemple, sera un petit temps ensemble, tant que tout le monde arrive. Et après, on essaiera qu'ils restent dans leur bulle, que ça soit assez feutré. On les servira à table. Comme au restaurant.
Ah, donc ils arrivent, ils mettent les pieds sous la table.
Ils mettent les pieds sous la table. Ils peuvent s'habiller s'ils veulent pour faire une petite soirée
sympa.
plus sympa. Voilà, on essaiera de décorer leur table. Et oui, c'est bien ce que vous dites, qu'ils restent dans leur bulle, qu'ils soient vraiment tête à tête. Voilà.
C'est une logistique importante, j'imagine. Déjà, vous attendez combien de personnes, combien de places qui sont ouvertes?
C'est pas une très grande salle et c'est une première, donc je sais pas du tout combien on aura de couples, peut-être...
On espère entre 20 et 40.
On aimerait bien être 20 et 40 personnes.
Mmh.
Voilà.
Dans l'idéal.
Ça serait bien, oui, ça serait bien. Oui. Voilà, la logistique. On a un petit peu l'habitude d'organiser des événements avec des dîners, donc on commence un peu à avoir l'habitude.
C'est vous qui cuisinez ou faites appel à un prestataire extérieur ?
Non, on va faire une partie nous-mêmes et une partie un prestataire.
Pendant cette soirée, qu'est-ce que vous essayez de susciter chez les couples ?
Le dialogue.
Le dialogue.
Le dialogue. Parce que...
Qui quittent leurs écrans pour dialoguer.
Alors, est-ce que vous avez un panier où vous mettez tous les téléphones, comme ça, on se regarde en vérité ?
Très bonne idée.
Bah,
je la
oui,
retiens.
Peut-être, oui. Après, on est quand même avec des adultes. On va pas... Je pense qu'ils ont compris. Ils ont compris le but de la soirée. Ils ne vont pas arriver et allumer leur téléphone ou poser leur téléphone à côté. Mais si jamais on en voit qu'ils font ça, peut-être que gentiment ou de façon... gentiment ou de façon humoristique, on leur dira, allez hop, ce soir, pas de téléphone. Même s'ils ont laissé leurs enfants à garder. Voilà, c'est pas...
Ou téléphone en silencieux.
Oui, bon.
Comment vous les avez imaginé toutes ces questions que les couples auront à se poser ? L'idée, c'est que chacun dans l'intimité de l'autre ou c'est un petit peu d'aborder toutes les thématiques sans grande barrière parce qu'on n'a pas forcément la possibilité de se parler dans le quotidien ?
Alors, dans ces questions, on n'aborde pas des thématiques. Par exemple, ce n'est pas comme lorsqu'on fait de la préparation au mariage, je veux dire. Voilà. Ils sont déjà en couple, ils ont déjà vécu en couple... Oui, c'est des questions simples. Nous, on les a, on a pioché un peu dans ce qu'on connaissait. Les AFC proposent aussi un petit schéma. On a pioché entre ça, on a pioché entre ce qu'on avait déjà fait à Lourdes. Voilà, on a essayé de créer trois petits questionnaires. Il faut aussi qu'ils se laissent aller par
la soirée.
Faut pas que les questions soient trop prises de tête. Voilà. Et puis c'est une première, et si ça a du succès et que les gens sont sympas, on aura peut-être des remontées. C'était peut-être pas assez intellectuel, ou c'était trop ou c'était pas assez catho, on verra. Mmh. On verra, et puis on adaptera les prochaines futures Saint-Valentin. J'espère qu'il y en aura plein d'autres.
Qu'est-ce que vous auriez justement à dire à des couples qui nous entendent et qui se diraient « Ah, pourquoi pas, mais j'ai encore du mal à me lancer dans ce type de soirée parce que je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a derrière. » Comment convaincre des couples de vous appeler pour s'inscrire?
C'est tout simplement un temps de détente. Voilà, c'est
de détente.
Se retrouver en tête-à-tête et s'amuser.
Mmh. Oui.
Dialoguer et s'amuser.
Et puis c'est moins cher que s'ils allaient au restaurant. Hein.
On va parler des tarifs. Les tarifs, justement, il faut compter combien?
On demande 15 euros par personne.
15 euros par personne.
Voilà.
L'idée, c'est de dialoguer en couple. Comment on fait pour entretenir son couple, pour dialoguer de manière simple, sans préjugés, sans a priori, ne se parler en vérité, entretenir son mariage? Vaste question.
Oui. C'est pas facile, et souvent on passe à côté parce que avec les enfants ça va tellement vite qu'on peut très facilement avoir l'impression qu'on vit ensemble et vivre à côté en fait. Et d'ailleurs cette semaine j'ai lu un article qui disait que la grande tendance actuellement, les couples se séparent, ils se séparent parce qu'en fait sans violence, sans dispute, parce qu'ils vivent à côté, ils s'aperçoivent qu'ils restent plus longtemps au travail, et puis ils vont au sport, et finalement ils s'aperçoivent qu'ils se sont séparés comme ça, tout doucement.
Ils s'éloignent.
Sans dispute, ils se sont éloignés, et au bout du moment où ils se sont éloignés, ils disent allez, on continue chacun de notre côté, c'est pas à peine de rester ensemble. Et c'est parce que je crois qu'il n'y a pas eu ce... Il y a aussi beaucoup la mode du développement personnel, il faut soi-même s'éclater, se retrouver, se découvrir... Mais je crois que si on cultive son couple, on n'a plus besoin de ça. On est bien dans sa peau.
Je crois qu'il ne faut pas oublier, souvent dans les couples, quand on a des enfants, on a tendance quelquefois à privilégier peut-être un peu trop les enfants. Et je pense qu'il ne faut pas oublier toujours son couple. Même quand on a des enfants petits, il faut toujours penser à son couple. Enfin, nous, on a 45 ans de mariage et c'est ce qu'on a toujours privilégié. On a toujours privilégié notre couple. C'est-à-dire qu'on a fait des soirées ensemble. On faisait aussi des week-ends où on partait que tous les deux. Après, on peut faire garder ses enfants par des grands-parents quand on en a qui sont proches. Après, ça peut être par des amis. Ça peut être. Il y a toujours des solutions pour faire garder ses enfants et pour pouvoir prendre un temps seul tous les deux.
On sait aussi que pour entretenir son couple, certains couples cathos adhèrent aux équipes Notre-Dame. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste?
Alors, les équipes Notre-Dame, on en a fait un petit peu partie.
15 ans.
Un peu beaucoup.
Un peu beaucoup, oui, 15 ans.
Au début, quand on était tout jeune. Ce sont des équipes qui se retrouvent autour d'un prêtre. Voilà, ils sont 4-5 couples en général, il ne faut pas être trop pour pouvoir bien discuter, autour d'un dîner. Il y a aussi il y a des sujets, ils le préparent, ils travaillent un petit peu avant, ils se retrouvent pour partager. Et il y a aux équipes Notre-Dame, il y a des règles, je ne sais plus très bien si ça s'appelle des règles, des points concrets d'effort. Des points concrets d'effort. Et la prière en couple... Il y a plusieurs trucs. Et il y a le fameux devoir de s'asseoir.
Ouais, le fameux DSA.
Le fameux DSA.
Alors, c'est quoi ce fameux DSA dont on entend tout le temps parler?
Ça paraît pas extraordinaire, mais on le fait pas. On le fait pas. Ça demande quand même un effort. Et bien, le devoir de s'asseoir, c'est un peu comme la Saint-Valentin autrement. C'est se prendre une soirée, une fois par mois. Ça paraît pas beaucoup, une fois par mois, une soirée à deux, mais c'est beaucoup. Mais
il faut s'y tenir.
Il faut s'y tenir et il faut prendre rendez-vous. Parce que si on ne prend pas rendez-vous, on le fera cette semaine, on le fera demain. Non, ça va être ce jour-là, à telle heure. On peut le faire chez soi. Mais après, si on a plein d'enfants dans la maison, c'est vrai qu'on va tout le temps déranger.
Oui, sur le lit.
On peut le faire, on peut les faire garder. Ou on peut se faire un petit resto, une pizza, sans aller dépenser des mille et des cents. Pour être vraiment bien en tête-à-tête. Et là... Mais on se parle. Alors, en général, le sujet, ça vient, on va parler des enfants, bien sûr. On va parler des enfants, mais c'est très bien aussi. On va parler
de ses défauts, de ses qualités.
De ce qu'on ressent, de ce qu'on a envie. Ouais. Et moi, je suis fatiguée, j'ai besoin de partir en vacances. Et toi, machin. Et toi, tu rentres trop tard le soir. Ça peut être des reproches, mais ça peut être des qualités. Ça peut être des... Voilà, on parle de tout et de rien, mais on n'est que tous les deux.
Et c'est des choses qu'on n'aborde pas forcément quand on est dans le quotidien,
non ? Forcément non, on rentre du travail et tout de suite c'est le bain, c'est le devoir, c'est le truc, et le soir, c'est devant la télé, et puis on se couche et puis ça recommence, quoi. Donc ce temps, il est très important, et voilà, et devoir s'asseoir, et puis nous, on recommande en plus du devoir de s'asseoir, ce que tu disais tout à l'heure, Gilles, un week-end par an.
Par an.
Un week-end par an.
Donc c'est pas énorme.
C'est pas énorme, mais c'est pareil.
Il reste 51 week-ends pour amis, la famille ou les enfants.
Mais est-ce qu'on le fait ? Un week-end par an, voilà. On peut toujours... nous, on a eu 7 enfants et on a essayé de s'y tenir. Puis on en avait envie, en plus, de partir.
Loin des enfants, loin de l'agitation du quotidien.
Des amis, les parrains, les marraines. Si on s'organise un peu, on peut y arriver. Et ce week-end, il est super important.
Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale le temps que les auditeurs puissent déjà aller s'inscrire à cette Saint-Valentin autrement dont on vient de parler pendant un petit quart d'heure. Pour s'inscrire, expliquez-nous comment ça se passe.
C'est très simple. On nous envoie ou un SMS ou un mail en nous disant qu'on s'inscrit à la Saint-Valentin autrement et on encaissera le chèque ou l'argent en espèces le jour de la Saint-Valentin, enfin le 11.
Donc je rappelle la date, c'est le 11 février. Ouais. À quelle heure ?
19h45.
Ça dure à peu près 2h30. 19h45, 11 février, 15 euros par personne à la salle Josette Durand à l'église de Sapiac, place du 22 septembre à Montauban. Et pour s'inscrire, c'est avant le 4 février, donc il faut se dépêcher. Mais je pense que si toutes les places ne sont pas prises, vous accepterez bien évidemment une rallonge. Et je donne les deux numéros de téléphone pour s'inscrire, 06 45 90 55 85 et 06 83 58 28 75 pour cette Saint-Valentin, autrement le 11 février à Montauban. Comme promis, une première pause musicale. On revient dans quelques instants. On parlera justement des AFC.
Il y a des jours où je me sens si seul, où je me sens si loin, loin de ta présence. Il y a des jours où je me sens si las, tellement découragé, seul face au silence. Oh pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Quand l'épreuve se présente, où je n'ai pas la force de lutter, de combattre. Il y a des jours, je me sens sans défense, déchiré de toutes parts, seul face à mes angoisses. Oh pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me moi.
présence dans la vallée du Lot, 92.5.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Gilles et Véronique Valadier et Fabienne Venard, tous les trois membres du bureau des AFC du Tarn-et-Garonne. Les AFC pour Association Familiale Catholique. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces associations familiales catholiques ?
Alors pour faire un petit peu d'histoire, d'abord c'est un mouvement fort qui a plus de 100 ans d'expérience au service des familles, donc puisque les premières associations familiales datent de 1908. Et nous sommes le deuxième mouvement familial en France avec 28 000 familles adhérentes, dont 900 familles en Occitanie. Mmh. Nous sommes le seul mouvement familial et catholique reconnu d'utilité publique et représenté dans les instances politiques et sociales. Et donc nous travaillons essentiellement localement auprès des parents, des enfants. Nos principales actions sont les chantiers éducation, les conférences, les antennes, consommation et la formation. En Occitanie, nous sommes présents dans les 13 départements. Il faut que les familles adhèrent en masse auprès de notre association pour promouvoir l'identité et les droits de la famille. Car adhérer aux AFC, c'est renforcer la voix des familles dans la société. C'est extrêmement important puisque notre présidente intervient régulièrement auprès des hommes politiques et même du président de la République. Et donc plus nous serons nombreux et plus nous pèserons sur le choix de nos politiques. Et donc nous avons trois missions qui sont importantes, qui sont 1. Valoriser la famille fondée sur le mariage d'un homme et d'une femme et ouverte à la vie. Le 2. Discerner localement les besoins des familles. Et le 3. C'est agir auprès des acteurs économiques, sociaux et politiques.
Vous disiez renforcer l'identité de la famille. De quelle identité vous parlez ?
Du couple.
Donc un homme, une femme.
Une femme et des enfants.
On voit de plus en plus dans la société que ce modèle classique, on peut le considérer comme classique, de la famille est en perpétuelle évolution. Et on voit qu'il y a beaucoup de couples qui sont plus ouverts forcément au fait d'avoir des enfants. Quelle lecture vous en faites ? Pour des raisons qui leur sont propres, qui sont économiques, environnementales.
C'est pas notre lecture. Ça soit clair.
Et qu'est-ce que vous en pensez de ça, justement ?
Nous pensons que c'est pas le bon choix pour l'avenir de la société. Je pense que une société doit être construite sur des choses sûres et la famille est quelque chose de sûr. On voit bien que souvent les acteurs qui ont des vies un peu particulières ou les chanteurs ou les hommes qui sont très admirés à la télévision ou sur Internet, souvent ils vous parlent de leurs parents. C'est assez flagrant, c'est souvent, ils font une référence aux parents, aux grands-parents, donc c'est la famille. Les valeurs de la famille reviennent toujours dans l'esprit des gens. Et ça, c'est extrêmement important.
Le socle, la famille.
Ah oui, pour la société, je pense que c'est extrêmement important, et oui, c'est le socle de notre vie. Oui.
Et automatiquement, ils doivent porter du fruit.
C'est mieux. c'est mieux. Mais après, il faut respecter chaque personne, chaque couple, chaque... Voilà. Mais oui, le mieux, c'est... Nous sommes ouverts à la vie, donc forcément, ça doit porter des fruits.
Vous expliquez que parmi les missions des AFC, il y a cette idée de véhiculer les valeurs de la famille tout en respectant le cadre qui est fixé par l'Évangile, la Bible. Quelle lecture, pareil, on doit en faire ? C'est-à-dire, comment on peut évoluer en tant que couple, en tant que famille, tout en respectant les principes même du catholicisme en France ? Vaste question.
Ah oui, vaste question. Mais, comme notre mouvement s'appelle Association familiale catholique. Donc forcément, ça fait référence à l'Évangile et ça fait référence à la foi. Forcément. Donc nous cherchons à construire des familles qui sont le plus proche possible du catéchisme de l'Église catholique et donc de la foi.
Ça marche aussi par l'exemple, le fait d'être sain, de faire une bonne éducation à, aux enfants, d'être engagé aussi dans des mouvements d'église ou dans des mouvements qui ne sont pas d'église. La preuve par l'exemple aussi, c'est ça les AFC.
Oui, ça fait partie, oui. L'exemple est extrêmement important, d'abord pour nos enfants. Donc il est extrêmement important de, que nos enfants se, puissent se dire « Oui, j'ai confiance dans papa, j'ai confiance dans maman. C'est un couple solide. » Voilà, donc le, oui, l'exemple est extrêmement important.
Concrètement, qu'est-ce que vous proposez au sein des AFC ? C'est des conférences, c'est des retraites, comment ça fonctionne ?
Vous avez différentes activités selon les associations. Hein, donc nous à Montauban, on a plusieurs activités. Donc on a un dîner vin fromage par exemple où on réunit des couples sur une soirée. On a de temps en temps des conférences. On a également une marche des pères. Voilà, il y a différentes. On a travaillé à un moment donné sur la bioéthique. À l'heure actuelle, on est plus sur la fin de vie. Voilà, donc il y a des tas de sujets sur lesquels on peut travailler pour nos familles.
Et ce qui est intéressant au sein des AFC, c'est que vous proposez des activités, des ateliers pour toutes les tranches d'âge. C'est-à-dire qu'on n'oublie personne, autant les jeunes enfants que les adolescents, que les familles.
Oui.
Est-ce que vous avez aussi des propositions pour les personnes âgées ou pas ?
Ah ben pour nous, un couple, ça va du début du mariage ou même avant, les fiançailles ou avant, et ça va jusqu'au décès des personnes. Donc on inclut à l'intérieur toute la famille. Pour nous, ça va du début jusqu'à la fin de la vie.
Quel est votre regard sur les couples aujourd'hui ? Des couples qui prennent différentes formes dans notre société ? Bouleversés.
J'aurais tendance à les plaindre. Je pense que on est dans une société qui est compliquée, qui est difficile.
Pour qui il est difficile ?
D'abord pour les jeunes couples, parce que on leur laisse entendre qu'il y a des tas de possibilités aujourd'hui dans les couples. Voilà, il faut être ouvert, il faut être faire des expériences. Voilà, je sais pas si tout ça c'est très sain. On verra dans les années futures ce que ça va devenir. Après, moi je suis croyant, donc j'ai la foi et je sais que on reviendra à des choses sûres et à des valeurs sûres, comme que les couples restent solides. Et c'est ce qui, à mon avis, c'est ce qui permet de construire des familles fortes.
C'est aussi un danger pour les enfants de véhiculer ce genre de témoignage, le fait qu'un couple, c'est plus forcément qu'un homme et une femme. Est-ce que c'est dangereux pour les enfants ?
L'avenir nous le dira. Personnellement, je pense que oui, mais l'avenir nous le dira. Peut-être que je me trompe. Hein,
On l'expliquait tout à l'heure, c'est important de se retrouver en tant que couple, de prendre du temps l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. Est-ce que vous auriez des petits conseils à donner aux couples qui nous écoutent ? On parlait du DSA tout à l'heure, on parlait de ces fameux week-ends, un week-end par an. Il y a aussi la Saint-Valentin autrement, dont on a parlé au début de l'émission. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à ceux qui nous écoutent ?
Alors, j'en ai un très simple, c'est de dire tous les jours à son épouse « je t'aime ».
Pourquoi c'est important de rappeler à son épouse ou à son époux qu'on l'aime ?
Parce que je pense que plus on le dit, plus on en est sûr et plus on confirme notre amour. Et ça permet de mieux se retrouver et de mieux s'aimer.
On dit aussi... Ah, Véronique Valadi a peut-être quelque chose à dire aussi.
Moi, je pensais à la complicité.
Entretenir cette complicité.
Entretenir cette complicité et puis beaucoup, beaucoup d'humour. Et rire beaucoup aussi. Enfin, j'ai pas d'exemple à donner parce que c'est des petits trucs de tous les jours, mais je trouve que c'est très important. L'humour, la complicité et la joie.
Dans un couple, on a aussi une évolution, l'amour qui évolue au fur et à mesure du temps. Par quels moyens on fait pour garder la flamme du premier jour, si c'est possible ?
Alors moi, pour mon couple, c'est... c'est... Je pense qu'on s'aime plus aujourd'hui que quand on s'est rencontrés. On a eu un coup de foudre, certainement, puisqu'on est ensemble. Mais je pense qu'on s'aime tous les jours un peu plus, oui. Mmh. Oui, c'est possible.
Véronique Valadier, vous, votre regard sur cet amour qui évolue au fur et à mesure du temps?
Alors, il est évident que l'amour évolue au fil du temps. Mais le but du mariage et de cette longue vie ensemble, c'est qu'ils grandissent avec les années. D'ailleurs, lors des préparations au mariage que nous faisions avec Gilles à une époque, nous aimions bien cette phrase « Je ne te choisis pas parce que je t'aime, mais pour t'aimer. » Et ben voilà, ouais. Je suis comme Gilles, je crois qu'on s'aime encore plus que... On n'est pas là pour parler de nous, mais je crois que l'amour a grandi.
Mais c'est aussi un beau témoignage de parler de vous et de vos 45 ans de mariage. Bon, vous avez traversé des tempêtes, comme beaucoup de couples.
Bien sûr.
Mais on a vraiment le sentiment que...
c'est pas fini.
Oui. Voilà. Ça ne fait presque que commencer. Mais on a l'impression que beaucoup de couples aujourd'hui s'arrêtent dès qu'il y a un obstacle et, comme vous le disiez tout à l'heure, s'éloignent au fur et à mesure plutôt que d'affronter le mal ensemble. Ça veut dire que les bases du mariage ne sont pas assez solides ou les gens se marient pour les mauvaises raisons? Qu'est-ce que vous en pensez?
Aux préparations au mariage, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de couples qui vivaient déjà ensemble et qui avaient déjà des enfants. Donc, quelquefois, on se demandait un petit peu. Bien sûr, on repousse personne. On était très heureux qu'ils viennent préparer leur mariage catholique. Mais on se demandait quelquefois quelles étaient leurs raisons. Et on n'a pas de suite. Après, on ne sait pas ce que sont devenus ces couples. C'est dommage. Voilà. Puis certains n'hésitaient pas à dire c'est parce que c'est joli, j'ai une grande robe blanche.
Il y a l'image du mariage vraiment.
Le mariage, ma grand-mère comprendrait pas qu'on n'ait pas des belles photos sur la cheminée. Voilà, ça reste, c'est une tradition dans la famille, tout le monde se marie. Et voilà, pour moi, c'était pas les bonnes raisons. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça lors de préparation au mariage? C'est un peu compliqué. Et c'était malheureusement une grosse majorité qui n'était pas vraiment c'était pas pour les bonnes raisons. Alors après, ça n'empêche pas que peut-être ces couples,
qu'un couple peut durer,
s'engage dans un mouvement pour aider leur couple, parce qu'il n'y a pas que les équipes Notre-Dame, bien sûr, il y a plein d'autres mouvements qui peuvent aider les couples à évoluer. Parfois on se demandait un peu mais pourquoi ?
Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale. On revient dans quelques instants et on parlera justement des langages de l'amour avec vous, notamment Fabienne Venard. Vous aussi, vous êtes membre du bureau des AFC du Tarn-et-Garonne, sur comment on peut faire ressentir son amour à l'autre. On écoute Histoire d'amour de Dévotion et on revient dans moins de 4 minutes.
Une pièce d'argent, il a été vendu.
À Salise du Salat, 94.1.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec les membres des AFC, Association Familiale Catholique du Tarn-et-Garonne. Et désormais la parole est à vous, Fabienne Venard, vous êtes membre du bureau des AFC du Tarn-et-Garonne. Vous allez nous expliquer un petit peu comment on peut exprimer son amour à l'autre avec les cinq langages de l'amour. Donc on sait que les cinq langages de l'amour, c'est Gary Chapman, mais vous allez nous raconter un petit peu l'histoire qu'il y a derrière tout ça.
Eh bien voilà, effectivement, avant de parler des cinq premiers, enfin des cinq langages de l'amour, c'est important de savoir comment Gary Chapman est arrivé jusque-là. Parce que ça ne vient pas de n'importe où, ça vient à partir d'une réflexion, ça vient à partir aussi des expériences et de tout ce qu'il a pu vivre en fait avec ses couples qu'il a côtoyés, qu'il a suivis et toutes les difficultés en fait de ses couples. Et il s'est rendu compte finalement que ces difficultés étaient assez récurrentes. On se heurte toujours à la même chose, c'est-à-dire que le début de la vie à deux, c'est formidable, c'est le coup de foudre, l'expérience est enivrante, on a l'impression qu'on va vivre comme ça sur cette lancée jusqu'à la fin de sa vie sans avoir rien d'autre à faire que de se laisser porter. Et puis, effectivement, la vie de tous les jours, la vie à deux, les enfants qui arrivent éventuellement... le travail de l'un, le travail de l'autre, tout ça fait que les choses se compliquent petit à petit. Ce petit nuage sur lequel on est à deux et sur lequel on flotte commence à se fissurer quelque peu. Et on se demande, ces petits défauts. Au début, on trouvait ça charmant. On les voyait même pas, à vrai dire, ces petits défauts des uns des autres. Et puis, petit à petit, ça devient vraiment gênant, ce petit défaut de l'autre. Et puis, ça finit par vous boucher l'horizon. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et Gary Chapman, qui est en tant que conseiller conjugal, il a entendu en boucle ces mots. « Notre amour a disparu. Notre relation est morte. » Nous étions très proches, mais désormais, ce n'est plus le cas. Alors,
en entendant ça. Il s'est dit, bon, bah, quelles sont les options, en fait, hein, une fois qu'on est face à cette constatation? Est-ce qu'on est destiné à une vie de misère avec notre conjoint? Ah, pas très emballant, quand même, comme vue d'avenir. Ou alors, est-ce qu'on va quitter le navire et recommencer? Mais recommencer pour quoi? Et pour quoi faire? Pour revivre la même chose? Pour revivre 2 ans de coups de foudre, d'emballement, et puis après se dire au bout de 2 ans, ah ben oui, mais en fait, eh ben, je suis exactement au même point. Et c'est un petit peu, moi je me souviens avoir entendu le père Denis Sonnet parler de ça en disant, mais écoutez, voilà, vous pensez que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la barrière? Ah oui, elle est plus verte. Mais c'est vous qui croyez qu'elle est plus verte, en fait. Ça va être plus verte combien de temps, cette herbe au-delà de la barrière? Et ça va durer combien de temps, ce nouvel élan avec une autre personne? Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on assiste vraiment aussi parfois à des conjoints qu'on jette, entre guillemets, en cascade, parce que bah, rien n'est jamais satisfaisant, et on en arrive toujours au même point. Et c'est vrai que bah, le coup de foudre des débuts, bah, c'est quelque chose qui n'est pas forcément, si on ne fait rien pour bah, la vie de tous les jours, on a raison, en fait. Alors Gary Chapman, voilà. S'est dit, eh bien, il faut peut-être reconnaître maintenant que le coup de foudre, c'est une expérience émotionnelle intense, mais éphémère quand même. Et après, il faut rechercher l'amour véritable avec notre conjoint. Et là, eh bien là, il y a un petit peu plus de travail, bien sûr, parce qu'il ne suffit plus de se laisser porter, il faut travailler un petit peu. Et alors, à ce moment-là, il s'est rendu compte, effectivement, bah, évidemment, que tout homme, toute femme, enfin, le désir profond, c'est de se sentir aimé et proche d'un autre être, en fait. Et c'est ça qui fait qu'on recherche toujours l'amour, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin d'aimer, on a besoin d'être aimé. Et voilà. Donc, à partir de là, il s'est rendu compte aussi que, ben, comme on dit, ben, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, et ben, il y a des langages de l'amour aussi qui sont différents. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une grosse incompréhension, en fait, parfois, dans le couple, parce que, bah, il y en avait un qui exprimait son amour d'une certaine façon et ça n'était pas reçu du tout, ou ça n'était pas compris. Oui, il y avait des choses qui n'allaient pas à ce niveau-là. Et donc, il s'est dit, bah, c'est vrai qu'il y a plusieurs, il a découvert, voilà, il y a plusieurs langages de l'amour. Et de la même façon qu'en fait, nous, on parle une langue maternelle, qui est le français, pour nous. Quand on parle une langue étrangère, ça nous demande plus de mal. Mmh. Hein, quand le français doit parler anglais, c'est compliqué, généralement. Donc, ça nous demande des efforts. Et pour les langages de l'amour, ça va être exactement la même chose, parce qu'il y a le langage de l'amour, en fait, qui est le nôtre. Alors là, on le comprend très bien. On est capable de le parler. Et puis après, il y a le langage de l'amour qui est celui de l'autre. Et là, on va avoir plus de mal, plus de difficultés à s'adapter. Donc en fait, ben, pour arriver à s'aimer toute une vie, il faut apprendre à s'exprimer et à exprimer un amour dans le langage que l'autre comprend. Et il faut de manière inverse aussi écouter quand il vous dit à sa façon « je t'aime » et savoir entendre en fait ce que l'autre vous dit à travers telle ou telle attitude, à travers telle ou telle parole, en fait. Donc, en fait, il faut... Oui, c'est un petit peu compliqué. Hein.
Il faut savoir décrypter.
C'est un double échange. C'est un double échange. Et à partir de là, effectivement, à partir de là, on peut détailler les langages de l'amour pour savoir un petit peu ben, quels sont ces différents langages de l'amour.
Il y en a 5, ces langages de l'amour.
Il y en a 5, exactement.
Est-ce que vous pouvez nous les présenter?
Eh bien, je veux bien vous les présenter. Donc, le premier langage de l'amour... Ce sont les paroles valorisantes. Alors, les paroles valorisantes, eh bien, c'est savoir faire des compliments, avoir des paroles aimables, dire à sa femme, bah, tiens, je trouve qu'aujourd'hui, la robe que tu portes te met particulièrement en valeur, j'aime beaucoup cette robe-là, je trouve que tu es allé chez le coiffeur, je trouve que c'est très réussi, voilà, c'est des petites choses comme ça, des petites choses de tous les jours. Ça peut être aussi des paroles d'encouragement. Bon, alors, attendez, j'ai parlé du mari par rapport à la femme, mais je n'ai pas parlé.
Dans les deux sens, ça marche. Enfin, c'est important de le préciser, parce que je vois Gilles Valadier qui grogne.
Ça va quand même dans l'autre sens, alors. Alors, effectivement, pour les hommes par rapport aux femmes, c'est peut-être plus facile. Pour les femmes par rapport aux hommes, ça va être... Eh bien, écoute, je trouve que ça a été très, très efficace, la façon dont tu m'as débouché mon lavabo.
Que tu... Ça reste très genré, quand même.
C'est très genré.
Voilà, exactement. Oui, des paroles valorisantes par rapport à ce qui est de son domaine, en fait. Mmh. Voilà. Après, ces paroles valorisantes, ça peut être aussi des paroles d'encouragement. Parce que c'est vrai que... Mais on a besoin d'être encouragé, bien sûr. Hein. Donc, ça va être de l'un à l'autre, de manière indifférenciée. Je sais que tu as entrepris telle ou telle démarche. Je t'encourage dans cette démarche. Je suis là, je suis à côté de toi, je te soutiens. Mmh. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est des paroles valorisantes. Après, le deuxième langage de l'amour, donc, puisqu'on va, il y en a 5 à énumérer. Donc, il s'agit des moments de qualité. Alors, les moments de qualité, ça peut... Oui, c'est être vraiment complètement là pour l'autre.
Pas alors, de téléphone, ça... par exemple.
Voilà, pas de téléphone, par exemple. Et c'est effectivement être complètement et totalement à l'écoute de l'autre. C'est-à-dire, j'écoute, non pas en jetant un coup d'œil sur mon smartphone ou en regardant mon mot croisé ou en faisant je ne sais quoi d'autre, mais non, je suis là complètement, je t'écoute complètement et je suis tout à toi. Voilà. Oui, Véronique.
Du coup, le devoir de s'asseoir, c'est un moment de qualité.
Exactement. Donc, c'est vrai qu'il y a ce dialogue de qualité. Après, ça peut être aussi les moments de qualité, être ensemble, tout simplement. Mmh. Ou être ensemble, partager tes activités communes. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est partager un moment ensemble.
Donc, les paroles valorisantes, les moments de qualité.
Les moments de qualité. Le troisième langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Alors, il y a des personnes comme ça, plus sensibles aux cadeaux. Alors, les cadeaux, à ce moment-là, ça ne va pas être faire une fois dans l'année un cadeau extravagant en disant « Ah là 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 là, je t'ai fait un formidable cadeau, ça va suffire pour l'année ». Non, pour les personnes qui sont sensibles aux cadeaux, ça va être des petits cadeaux. Mmh. Pas forcément d'une valeur importante, hein, mais des petits cadeaux fréquents, récurrents. Et puis, ce qui compte dans le cadeau, c'est en fait ce qu'on a compris de l'autre. Et puis, on sait ce qui va lui faire plaisir. Donc, il faut deviner, il faut être à l'écoute. Quand on fait un cadeau, enfin, c'est vrai que souvent, on se dit « Oh là 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 là, je ne sais pas quoi offrir ». Eh bien oui, en fait, ça demande de connaître l'autre, de le connaître profondément et de connaître de manière très fine. Quels sont ses goûts, quelles sont ses envies, quelles sont... Donc ça demande en fait une démarche qui est quand même une démarche qui est difficile en fait, hein, de faire un cadeau. Et il faut aussi, en fait, pour celui qui reçoit le cadeau, qu'il arrive à se dire, en fait, ce cadeau... Bon, effectivement, il y a le cadeau en lui-même. Bon, ça c'est une chose, mais parfois, le cadeau peut être une désillusion. C'est-à-dire, oui, il m'offre ça, mais ça ne me fait pas du tout plaisir, en fait. Ou alors, c'est un cadeau, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Donc, il a tapé complètement à côté. Et parfois, on a presque du ressentiment. Donc, ça, c'est affreux comme chose.
C'est mauvais comme sentiment.
Ah oui, c'est horrible. C'est horrible. Moi, je trouve ça horrible. En fait, dans un cadeau, ce qu'il faut, c'est se dire, en fait, voilà, mon conjoint a pris le temps de penser à moi. Il a pris quelque chose, il a choisi quelque chose en pensant vraiment que ça me ferait plaisir. Donc même s'il a tapé à côté, est-ce que c'est vraiment important finalement qu'il ait tapé à côté? Et je trouve ça, il n'y a rien de plus affreux que... Moi j'avais eu comme ça l'expérience d'une jeune femme qui me disait « Oh là là, mon mari m'a offert un cadeau, mais alors ça ne m'a pas du tout fait plaisir, et c'était très vilain, et etc. 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 » et des récriminations. Et j'ai été interloquée, je me suis dit « Mais en fait, est-ce que c'était important en fait ?» Ce cadeau, franchement, qu'est-ce qui était important? Ce qui était important, c'était l'attention que son mari lui avait portée à travers ce cadeau. Donc ça, c'est vrai que dans le cadeau, c'est quelque chose qui est important. Et quand je reçois un cadeau, eh bien, je reçois bien plus qu'une petite chose matérielle. Hein. Je reçois l'attention que mon conjoint m'a portée et l'amour qu'il me porte. Donc ça, c'est vrai que c'est... Alors, comme cadeau, il y a aussi parfois le don de soi.
Hein. Aussi.
Il n'y a pas uniquement les cadeaux.
Matériels.
Ce n'est pas forcément un cadeau matériel. Voilà. Oui. Ça peut être, eh bien, oui, je suis très occupée, je te fais cadeau d'un moment de qualité, par exemple. Donc, il n'y a pas.
Ça fonctionne aussi dans ce sens-là.
Ça fonctionne aussi dans ce sens-là. Après, on passe au quatrième langage de l'amour. Alors, le quatrième langage de l'amour, ce sont les services rendus. Alors, les services rendus, ben, ça, c'est un petit peu comme le cadeau. Hein. Ça demande aussi de savoir ce que le conjoint attend de moi. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir ? Quel est ce service que je pourrais lui rendre, qu'il attend et qui lui ferait plaisir ? Et bon, ben, généralement, le service rendu, ben, il a une valeur encore plus grande s'il n'a pas été demandé. Parce que, ah, ben, j'aimerais bien, par exemple, que tu sortes les poubelles. Oui, ben, je vais sortir les poubelles. Bon, tu me rends ce service, d'accord, mais c'est moi qui te l'ai demandé. Oui, le service rendu, c'est un petit peu autre chose. C'est devancer, en fait. Par exemple, je sais pas, admettons qu'une jeune femme soit fatiguée, qu'il y a un enfant qui crie dans son coin, etc. Bon, bah, le service rendu, ça ira soulager cette jeune femme sans attendre qu'elle demande de l'aide. Mmh. En disant, au secours, j'en peux plus, est-ce que je peux te confier ce bébé qui crie et que je n'arrive plus à calmer ? Voilà, ça sera aller au-devant du besoin de l'autre. Donc le service rendu, ça demande un petit effort aussi, ça demande de sortir de sa zone de confort, bien sûr. Donc voilà pour ces services rendus.
Et le dernier ?
Et le dernier, eh bien le dernier langage de l'amour, c'est le toucher physique. Alors c'est vrai que le toucher physique, eh bien ça peut être une caresse qu'on donne en passant, ça peut être s'embrasser, ça peut être se frôler en se croisant, se toucher le plus souvent possible, et bien sûr avoir des relations plus intimes évidemment. Mais le toucher physique, c'est pas uniquement les relations intimes, c'est toutes ces petites marques d'affection en fait. Qui nous permettent de dire par un geste tout simple en fait, hein, de dire qu'on s'aime et de dire qu'on reste proche. Mmh. Et de dire qu'on est là et qu'on est un couple. Voilà.
Merci beaucoup pour cette belle présentation des cinq langages de l'amour de Gary Chapman. Ouais. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je rappelle la date quand même pour cette Saint-Valentin, autrement le 11 février à 19h45, salle Josette Durand à l'église de Sapiac, du côté de Montauban, organisée par les AFC. Il faut s'inscrire si possible avant le 4 février, mais vous inquiétez pas, vous pourrez en tout cas participer si vous avez un peu de retard. Un mail, verogile@live.fr, verogile@live.fr ou au 06 45 90 55 85 06 45 90 55 85. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci d'avoir fait le déplacement et d'être venu nous parler des langages de l'amour des AFC, d'être cette Saint-Valentin autrement. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Merci.
Merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.